Jules Claresi. Conclusion de Camille Desmoulins. Ce n'est pas sans une certaine mélancolie qu'on rouvre les annales du passé. L'histoire porte avec elle, en même temps que ses enseignements, sa tristesse particulière. Que de mots, que de luttes, que d'écrasements, que d'avortements, que d'injustices triomphantes. Quelles sanglantes éclipses du droit, quelles farouches affirmations de la force. Et, pour ne nous souvenir que de la période dont nous venons de retracer quelques épisodes, que d'espérances éclatantes au début et brisées au dénouement. Certes, si nous demeurions sur l'impression navrée que doit laisser à tout homme de cœur le spectacle de ces tueries, nous fermerions notre livre avec désespoir. Et nous nous demanderions si la liberté que les hommes de la fin du XVIIIe siècle voulaient si ardemment conquérir, exigeait tant de sacrifices et tant de sang. Mais c'est de loin, c'est à distance, c'est de notre foyer, et comme du fond de notre situation actuelle, basée sur l'égalité, qu'il faut considérer l'œuvre de la Révolution française. La liberté, elle nous l'a donnée seulement en partie, mais l'égalité, que notre tempérament national préfère malheureusement à la liberté, elle l'a en réalité fondée, et pour toujours. Voilà le grand fait, le résultat absolu, ce qui nous console de tant de douleurs et ce qui nous les fait oublier. Voici ce qui nous attache, nous tous, fils de la Révolution, à ce passé tragique et superbe, sorte de creuset bouillonnant où s'est élaborée la société moderne. La Révolution sera pour la France ce que la réforme a été pour l'Allemagne, l'ère de refonte, de rajeunissement et de vie. Chaque fois que nous avons franchement adopté ces principes, nous nous sommes sentis plus forts et plus sûrs de nous-mêmes. Chaque fois que nous les avons reniés, nous avons ressemblé à un homme qui perd et sa conscience et sa confiance en soi-même. La Révolution, quoi qu'on fasse, est aujourd'hui notre grande tradition nationale. Et cela est si vrai que les temps nouveaux n'admettent aucune forme de gouvernement qui ne procède directement de la Révolution, ou l'Empire, qui en est la déviation, ou la République, qui en est le droit. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la Révolution. Et l'heure est depuis longtemps venue de n'accepter d'elle que ce qui est fécond et solide, les réformes politiques, sociales, les idées généreuses, et de répudier tout ce qui est théâtral en elle. Et fatale. Les idées saines, ce sont celles qu'on trouve codifiées, pour ainsi dire, dans la Déclaration des droits. La liberté assurée, la propriété inviolable, la sûreté et la résistance naturelle à l'oppression, en un mot, la loi devenant expression de la volonté générale et n'ayant le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. La force publique garantie des droits de chacun, fonctionnant pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. La société ayant le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Voilà les idées mêmes de la Révolution française. Et je dirais son testament, si la Révolution n'était point vivante encore, et si c'est bien qu'elle voulait assurer aux générations futures, on ne nous les avait pas trop souvent confisquées, et si nous ne devions pas encore travailler légalement, sans désordre et sans violence, à les conquérir. Quant aux écueils à éviter, c'est l'emphase, la grandeur tragique, l'amour de la phrase, des discours, de la mise en scène, qui firent de la Révolution comme un drame tumultueux, effrayant et attirant. Attirant, car elle développa encore chez les Français ce goût particulier pour les démonstrations extérieures, pour les costumes, pour les spectacles, qui est le fond même du caractère de notre race. Il ne faut pas confondre la révolution avec les révolutions. La révolution, c'est la réforme complète de l'ancien ordre des choses. Les révolutions, c'est une série de chocs et de coups d'État qui ont plus d'une fois mis en péril l'esprit même de la révolution. Aussi bien, c'est pour en finir avec les révolutions, les tumultes, les jours caniculaires, comme disait Camille Desmoulins, en parlant des bouillonnements du faubourg de gloire. C'est pour fonder la liberté, pour asseoir la République sur des bases solides, que les hommes dont nous avons raconté l'histoire ont risqué et donné leur vie. Ils étaient las des démonstrations magnifiques mais stériles. Ces défilés de braves gens, donnant le plus pur de leurs biens à la patrie, on vit même une pauvre femme qui offrit au pays, ne rions pas, 4 œufs, tout ce qu'elle avait. Ces manifestations de sentiments généreux, qui parlaient si haut au cœur des foules, avaient leur revers, lorsque des habiles ou des fous remuaient la lie de ces grands courants si majestueux. Danton était las de ces perpétuels remous. Il savait que le lendemain du 10 août, on a à redouter le 2 septembre. Il voulait faire rentrer le Nil dans son lit. Était-ce, comme allaient lui reprocher ses ennemis mortels, était-ce se montrer contre-révolutionnaire? Oui, si l'on entendait par révolution le perpétuel déchaînement des instincts. Non, si l'on voulait donner pour but à la révolution la constitution de la République et l'affirmation de la loi. Comme Mirabeau, Danton voulait l'ordre sans l'ancien ordre. Et il avait raison. Sans doute la terreur, chère à Saint-Just sous le nom de justice et à Billot sous le nom d'effroi, donnait au jour traversé une grandeur sinistre. L'épouvante retrempait les âmes. Regardez quelle fierté ou quelle poésie ont alors les derniers soupirs. C'est un délire, c'est une fièvre. On meurt en héros, comme ce Jean Petit, volontaire au premier bataillon des Lombards, qui dit au chirurgien qui lui extrait du plomb, qu'on me rende cette balle, je la renverrai aux Autrichiens. Comme ce canonnier qui s'écriait, « Allons, Pitt, avec tes guinées, tu n'aurais pas payé une goutte de mon sang, et je le verse aujourd'hui tout pour la liberté. » Comme cet homme que les chouans torturent parce qu'il a tué son roi, et qui, les pieds sur les tisons, leur crie, « Ressuscitez-le, je recommencerai. » Tout cela est plein d'une grandeur tragique, sublime et sauvage. Mais cette fièvre nationale, constituait-elle donc un gouvernement capable d'assurer ce que la France demande vainement depuis près d'un siècle, un lendemain? Où en était-on en 1793? Et mieux encore, en 1794, alors que Danton voulut à la fois assurer la paix et la liberté à la France? Camille Desmoulins posait tristement la question avec une sorte de pressentiment terrible. La France, disait-il, sera-t-elle une république ou cherchera-t-elle dans la monarchie le repos de sa lassitude des trahisons éternelles de ses représentants? Ferons-nous partie de la monarchie prussienne ou autrichienne, ou la France ne sera-t-elle démembrée qu'en république fédérative? Paris, pour prix de son civisme et de ses sacrifices, nagera-t-il dans le sang? Allez-vous décréter son entière destruction, la dépopulation des 84 départements, et peut-être 50 ans de guerre civile? Sera-ce une question si les fondements de la République ne sont pas dignes de mort? Voilà les pensées et les doutes qui emplissaient les âmes de quelques hommes alors, et qui, moins les menaces mortelles, assaillent encore et inquiètent profondément les cœurs patriotes. Que sera la France? Où va la France? Sera-t-elle République ou monarchie? Et question plus redoutable encore, sera-t-elle la France? Hélas, après l'avoir vu tant de fois tomber de la liberté au despotisme, s'affranchir aujourd'hui pour tendre demain ses bras aux cordes du licteur, après l'avoir vu hésiter, tituber, puis courir éperdument du côté du gouffre, on se pose avec inquiétude le terrible point d'interrogation de Desmoulins et de Danton. C'est parce qu'à cette question, ils répondirent qu'il était temps de vouer sa vie à l'organisation de la République, c'est-à-dire au salut de la patrie. C'est parce qu'ils représentèrent le bon sens, la vision nette de l'avenir, la loi et la justice basées sur la pitié et la générosité, que je me suis senti attiré vers eux et que j'ai voulu ajouter une page à leur histoire. Ils n'ont définitivement rien fondé puisqu'ils sont morts, puisque Robespierre lui-même est tombé pour avoir voulu reprendre sous une autre forme l'œuvre qu'il frappait en eux si impitoyablement. Ils n'ont rien fondé, dira-t-on, et pourtant, le jour où la société française sera sortie de la tourmente, c'est à eux qu'elle devra, et elle s'en souviendra, son émancipation et son organisation nouvelle. Ce jour-là est éloigné peut-être. La liberté que rêvait Camille, cette liberté, fille d'Athènes, grandie sous le ciel de Gaulle, cette liberté élégante et accueillante est loin de régner encore. Nous avons jusqu'ici, je le répète, préféré l'égalité à la liberté. Nous avons lâché la proie pour l'ombre. Que m'importe d'être l'égal de celui qui n'est pas libre? Que m'importe de partager les droits d'un être dont le droit est de ramper? Mais l'égalité enivre comme la chimère, et la liberté réclame un culte plus fier. Voilà ce qui fait la séduction facile de l'une et le charme éternel de l'autre. Aimez donc, préférons à toute chose la liberté qui fait les hommes honnêtes et les nations grandes. Aimons-la, malgré ses excès et pour empêcher ses excès. Les peuples libres ne connaissent pas ces jours furieux des peuples qui ne brisent leurs fers et ne sont déchaînés que de temps à autre. Ce sont les esclaves qui courent au Saturnal. N'imitons ces ancêtres de la Révolution que dans leur probité et leur droiture, dans ces qualités de caractère qui rendraient facilement plus enviable, malgré ses périls et ses épreuves, l'époque sanglante où ils vécurent, que le temps avili où nous nous traînons. Ne faisons pas consister notre enthousiasme dans une passion rétrospective pour des écharpes, des plumets et des costumes. La Commune de 1871 nous a montré ce que coûtent les révolutions de tradition, d'apparat et de pastiche. Soyons de notre temps, en honorant le temps passé dans ce qu'il a de grand, mais en ne cherchant pas à le recommencer. L'avenir se présente avec aujourd'hui, non avec hier. Tâchons de faire non pas un état révolutionnaire, toujours en ébullition, mais un état républicain, solide et paisible. Cultivons nos vignes et nos blés sur le volcan éteint que nul ne doit rallumer. Et tandis que les grondements, les sourds mugissements de la lave et de la haine s'effaceront de plus en plus avec les générations nouvelles, ne songeons qu'à cette mère, la patrie, dont les plaies saignent encore, et à cette fiancée, la liberté, que le sort réserve peut-être enfin à notre amour. C'est sur ce vœu, c'est sur ce rêve, que je veux terminer ce livre où l'on a trouvé, je pense, l'horreur de l'oppression, quelle qu'elle soit, et le respect de la vie et de la liberté humaine. Mais comment ne pas oublier la mort des dantonistes, leur supplice, cette immolation affreuse de citoyens dévoués, en se disant que du moins, leur mort a servi à quelque chose. Nul d'entre eux, en mourant, n'a renié sa vie. Tels ils ont vécu, tels ils sont tombés. Les choses de ce monde nous gardent bien des désillusions. Mais il y aurait trop d'amertume à penser que de tels sacrifices sont inutiles et que les peuples pour lesquels de tels hommes meurent sont incapables d'être libres et se précipitent, se ruent, comme dit Tacite, vers la servitude. Tant de coups d'État de toutes sortes, de déceptions successives, de désespoirs ignorants, ont peut-être à la fin habitué la nation à servir. Peut-être qu'elle se sent perdue lorsqu'elle n'a plus de maître. La cavale rétive demande le mors serré et l'auge pleine. Mais je ne veux pas le croire. Je veux espérer. Il n'y aura plus de brumaire pour étouffer le grand soleil que seuls les aveugles ne voient pas. Paisiblement, pas à pas, notre France s'acheminera vers un état calme et réparateur où elle retrouvera sa grandeur et son rôle. La première des immortelles, comme l'appelait un penseur qui fut un poète, la fleur d'humanité, répandra encore ses parfums. Et quelle joie resterait donc au monde si on lui prouvait que le césarisme, brutal ou déguisé, le césarisme qui fut la fin de la République rêvée par Danton et Camille, est le dernier mot des efforts humains, des sacrifices et des martyrs.